nouvelles héroïnes.
Ce qui est extraordinaire, c'est que donc la première fois que je rencontre Simone de Beauvoir, j'ai 20 ans, en 1970, dans l'un des dimanches, ça va être tous les dimanches pendant des années, l'après-midi, des dimanches chez Simone de Beauvoir, elle va me parler, à moi qui ai 20 ans et elle qui en a 62, elle va me parler, semble-t-il, d'égal à égal. Et cela, c'est grâce à son père, car elle a été habituée à ce qu'enfant, on lui parle d'égal à égal. Et donc, la jeune fille que j'étais, elle m'a donné l'impression d'être son égale, même si je ne l'étais pas, même si j'avais une grande expérience internationale déjà à 20 ans, ce qui à l'époque était très rare. Mais elle m'a écoutée, elle a discuté avec moi, elle écoutait ma parole. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. C'est une force extraordinaire pour nous, pour les féministes.
Nouvelles héroïnes.
Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes.
Nouvelles héroïnes.
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, je te propose une mini-série très spéciale en 3 épisodes. Le 8 mars est un jour où le monde entier célèbre toutes les réalisations incroyables que les femmes et filles ont accomplies, mais aussi à ce qu'il reste à faire pour que les garçons et les filles aient les mêmes droits et chances, que ce soit à l'école, au travail, à la maison, dans la société.
Oui, comme les histoires de nouvelles héroïnes.
Mais oui, parce que dans l'histoire avec un grand H, les femmes n'ont pas toujours eu les mêmes droits que les hommes. Tu l'as ou vas sans doute l'étudier à l'école, mais la nouvelle héroïne, Olympe de Gouges, avait publié en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, avec en article premier « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit ». Mais voilà, la Révolution française ne modifie pas la condition des femmes et ne leur ouvre pas le chemin de la citoyenneté. Au contraire, en 1804, le Code civil institutionnalise l'infériorité de la femme qui doit obéissance à son mari. En 1944, le gouvernement de la République française accorde le droit de vote et l'éligibilité aux femmes, c'est-à-dire que les femmes peuvent voter pour leurs élus et aussi être élu. C'était il y a à peine 80 ans et tes arrière-grand-mères n'avaient sans doute pas le droit de voter comme tes arrière-grands-pères. Au-delà des frontières de la France, dans le monde, des jeunes filles de ton âge n'ont pas le droit d'aller à l'école car elles doivent rester à la maison pour aider à la vie quotidienne ou par manque de moyens de contraception, sont enceintes très très jeunes et ne peuvent plus aller étudier ou trouver un travail. Ainsi, montrer son soutien aux droits des femmes, c'est participer à rendre le monde plus juste et meilleur pour les filles comme toi, pour que tu puisses rêver grand et réaliser tout ce que tu veux dans la vie. Construire un monde dans lequel tout le monde, peu importe son sexe, puisse avoir les mêmes droits et les mêmes chances de réussir. Alors, à cette occasion, j'ai eu l'immense honneur d'interviewer une grande dame qui fit partie de ces femmes qui, dans les années 1970, aux côtés de Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Simone Veil, a lutté pour les droits des femmes et leur évolution. Cette femme que tu vas entendre s'appelle Claudine Monteil. Elle est écrivaine, historienne, diplomate, féministe et amie de Simone de Beauvoir, dont le nom t'a déjà été compté. Son histoire est absolument passionnante et je suis très fière de te la partager.
Nouvelles héroïnes.
Elle était une nouvelle héroïne, Josiane Serre.
Ah, tu me racontais l'histoire de Claudine.
Oui, tu as raison. Mais l'histoire de Claudine commence bien avant qu'elle pointe le bout de son nez pour voir la météo. Et il est important pour moi de te raconter l'histoire de sa maman. Claudine n'était qu'escalope panée qu'en 1948, sa maman, Josiane, lit un livre écrit par... Allez tiens, je te laisse deviner.
Simone de Beauvoir.
Oui. Et ce livre est le premier tome du célèbre ouvrage de l'écrivaine et féministe engagée Simone de Beauvoir. Ce livre s'appelle « Le deuxième sexe » et Josiane le dévore. Nous sommes à l'automne 1949 et Josiane termine le second tome du deuxième sexe. Elle et Jean-Pierre Serre accueillent ainsi leur unique petite fille, Claudine. Et bien sûr, pour te conter cette venue au monde, je laisse le micro à Claudine, à qui j'ai demandé de me présenter sa maman. Tu comprendras pourquoi en y prêtant tes deux oreilles.
Je suis la fille de ma mère. C'est important de le reconnaître, de se le dire qu'on est la fille de sa mère. Et je suis vraiment la fille de ma mère, dans le sens où ma mère se marie en 1948. Elle est jeune agrégée de chimie. Mon père, jeune agrégé de mathématiques. Ils sont tous les deux normaliens. Elle veut faire de la recherche. Elle a une admiration, Marie Curie, et une deuxième admiration, Irène Joliot-Curie, la fille aînée de Marie Curie, qui est également prix Nobel de chimie en 1935, première femme membre d'un gouvernement français en 1936, donc une grande dame qui s'est beaucoup battue pour les lois des femmes en France, notamment le droit au travail. Donc ma mère a ces deux objectifs et elle va faire sa thèse avec quelqu'un de l'Institut du Radium, dirigé alors par Irène Joliot-Curie. Marie Curie est décédée avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle se marie et en guise de cadeau de mariage, un grand mathématicien de l'époque invite ma mère à prendre un café et lui dit « Écoutez, vous avez épousé un jeune mathématicien très prometteur, et bien maintenant, vous allez arrêter vos études, vous allez arrêter votre travail pour vous consacrer à la carrière de votre mari. » Ma mère a bu le café, elle s'est levée et elle lui a dit « Merci pour votre conseil que je ne suivrai pas. » Et elle a été assez vite enceinte de moi en 1949. Elle a donc lu au début de sa grossesse, elle a lu le premier tome du deuxième sexe qui est paru à ce moment-là. Et quand elle m'a donné vie, en novembre 1949, elle était en train de finir la lecture du deuxième tome du deuxième sexe. C'est-à-dire que j'ai dit, 20 ans plus tard, j'ai dit à Simone de Beauvoir, « Simone, je suis un peu l'enfant du deuxième sexe. » Et Simone de Beauvoir m'a répondu avec humour, « L'enfant terrible, Claudine. » Elle avait l'image de Marie Curie et de Irène Joliot-Curie qui s'étaient mariées, qui avaient eu des enfants, qui avaient donc une vie qui, pour elle, elle voulait aussi avoir des enfants, ma mère. Et elle voulait avoir une vie de famille. Et donc, pour elle, sa passion, c'était la chimie. Elle voulait absolument devenir une grande chimiste à l'image de ces deux femmes. Il faut dire aussi que ses parents n'ont pas eu de fils. C'est-à-dire qu'une fois encore, son père, qui lui est rentré de Verdun, de la Première Guerre mondiale, des tranchées de Verdun, de la guerre très dure. Donc, elle est née, ma mère est née en 1922, 4 ans après la victoire pour la Première Guerre mondiale. Et elle est le bonheur de son père. Elle est l'enfant qui redonne goût à la vie après avoir été, il a été soldat, officier pendant toute la guerre. Et c'était une guerre terrible. Il a perdu tous ses amis, hein. Tous sont morts sur le champ de bataille. Et comme elle avait aussi une sœur, mais c'était deux femmes, c'est mon grand-père, très moderne à l'époque, c'est-à-dire entre les deux guerres, qui a emmené ma mère voir l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, qui était alors à Sèvres. Et il lui a dit, tu sais, peut-être un jour tu entreras ici, tu sais, tu pourras avoir un métier intéressant, faire des choses intéressantes dans sa vie. Il a toujours soutenu. C'est très important le rôle des pères. Vous savez, les plus grandes peintres, femmes peintres, il y a beaucoup de femmes peintres. La plupart des grandes femmes peintres qu'on découvre maintenant, parce que le 21e siècle, c'est le siècle où on va redécouvrir les femmes peintres, dont on parle moins, puisqu'on parle surtout des hommes peintres. Et je connais un peu le sujet, parce que j'ai été très proche de la sœur de Simone de Beauvoir, qui était artiste peintre, Hélène de Beauvoir, qui a réalisé 3000 tableaux et gravures, qui a eu des expositions dans le monde entier, dont on ne parle plus, pratiquement. Donc, tout cela pour vous dire, quasiment, les seules femmes peintres très connues, qui ont réalisé des œuvres magnifiques, c'est parce qu'elles avaient un père peintre, qui était lui-même connu, qu'elles ont été enfants, leur père les a aidées à apprendre à dessiner, à apprendre à peindre et surtout leur a dit « tu peux le faire toi aussi ».
Voilà, tu en sais un peu plus sur les parents de Claudine, Josiane et Jean-Pierre. Désormais, il est temps de mettre ton cartable sur le dos, parce que nous allons partir à l'école. Et pas n'importe quelle école, car nous allons traverser l'océan Atlantique jusqu'aux États-Unis d'Amérique à Princeton.
Ça a été un environnement extraordinaire. Je voudrais rappeler quand même que c'est juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je dis cela parce que la France est dans un état de très grande pauvreté. Il faut bien penser à la pauvreté. Les Allemands, les nazis ont tout pris, tout détruit. Donc il n'y a pas de logement. Il y a la misère, les salaires sont très bas, il y a encore des tickets de rationnement. Donc c'est quand même un environnement où ça a été très dur pour mes parents de nous loger au début. En 49, c'est encore très difficile. Alors qu'ils sont deux salaires de fonctionnaires. Enfin, je veux dire, ils gagnent leur vie. Ils ne sont pas dans la misère, à sens propre. Mais c'est pour dire. Eh bien, malgré tout, ça a été une enfance extraordinaire parce que mon père mathématicien, ma mère chimiste, il y avait des hommes et des femmes du monde entier à la maison. C'est-à-dire qu'il y avait toujours la porte était ouverte pour partager un repas, discuter d'hommes et de femmes du monde entier qui venaient à des colloques internationaux. Et l'autre chance que j'ai eue, qui pour moi était extraordinaire, c'est le fait que mon père a été médaille Fields, c'est-à-dire prix Nobel de mathématiques, à l'âge de 27 ans, le plus jeune dans l'histoire. Robert Oppenheimer, le grand physicien qui dirigeait l'Institut d'études avancées à Princeton, aux États-Unis, eh bien, invite mon père pour un poste permanent à Princeton. Mais il ne l'a pas accepté parce qu'il a été élu très jeune au Collège de France, professeur au Collège de France, qui est une institution créée par François Ier, 1530. Et ça date d'il y a très longtemps, c'est une institution prestigieuse, mais qui donne l'opportunité de ne pas avoir à enseigner. Vous pouvez faire de la recherche, enfin, vous faites des cours, mais c'est vraiment un institut très sympathique. Et donc, je me suis retrouvée à passer une partie de l'année aux États-Unis à Princeton, car mon père a accepté d'y aller 3 mois par an. Donc tous les automnes, j'étais à Princeton, dans un milieu international également. Je suis allée à l'école de la ville de Princeton et là, j'ai rencontré les premiers problèmes de société. J'ai 6 ans, j'y vais tous les ans, mais l'histoire que je vais raconter, je dirais que j'avais 10 ans et que j'allais avoir 11 ans. Donc l'automne, ça doit être l'automne 1960. C'est à très longtemps, mais Princeton, il faut vous dire, c'est quand même la petite ville dans le monde où il y a le plus de prix Nobel au mètre carré. Prix Nobel, médaille Fields, etc. Donc on peut imaginer qu'à l'école, ce soit une école avec des enfants quand même assez ouverts. Or, dans ma classe, il y avait 70% d'enfants blancs, 20% de garçons noirs, et une petite fille noire. Et cette petite fille noire faisait l'objet de brimades épouvantables de la part des petites filles blanches. Et j'étais la seule à lui parler. Or, aux États-Unis, vous déjeunez à la cantine tous les jours. C'est la journée entière. Vous ne rentrez pas à l'heure du déjeuner, etc. Donc, personne ne déjeunait avec elle. Donc, moi, je portais mon plateau et je me mettais avec elle pour bavarder. Et une fois, je ne l'oublierai jamais, parce que ça a marqué ma vie. Une fois, nous avions des spaghettis avec des boules de viande et je n'aime pas les boules de viande. J'avais 10 ans et je dis à Carole, la petite fille noire, je lui dis, Carole, est-ce que tu veux mes boules de viande? Parce que je n'aime pas les boules de viande. Et elle me dit, bah, écoute, si tu veux, moi, je te donne mes spaghettis, enfin, une partie de mes spaghettis. Elle était d'un milieu très pauvre, donc elle n'avait pas forcément, elle n'avait sûrement pas de la viande tous les jours. Donc, on échange les boules de viande contre les spaghettis et chacune, on est ravie. Et puis, c'est le retour à l'école, c'est le retour dans la classe. Et là, tous les enfants commencent à nous huer quand on passe avant d'entrer dans la classe. On entre dans la salle de classe, l'institutrice me regarde d'un air très mauvais et me dit « Mademoiselle, la directrice vous attend ». J'obéis, bien sûr. Hein. Et je vais voir la directrice, je suis la seule française, hein. Je suis la seule étrangère dans la classe. Et elle me dit « Mademoiselle, d'un air très, très glacial. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait à midi ?» Et je lui dis, mais non, madame la directrice, non. Et c'est vrai que je n'avais pas la moindre idée de ce que j'avais fait. Mademoiselle, vous avez donné votre viande à midi, à la cafétéria. Mais madame la directrice, c'était ma viande. C'est moi qui l'ai proposée à Carole parce que j'aime pas les viandes. Et elle m'a donné ses spaghettis. Donc, je dis la stricte vérité et la réalité. Elle me dit, Mademoiselle, on ne donne jamais sa viande. Ne recommencez pas. Et quand donc je quitte le bureau de la directrice, je suis en larmes. Je suis en larmes, j'arrive en classe et qu'est-ce que je trouve ? Ma copine, la petite fille noire, Carole, en larmes. On s'est fait siffler pendant la classe alors qu'à l'époque, les élèves étaient très sages. Voilà, c'est pour vous dire, c'est ça que j'ai vécu aussi très jeune, enfant, et je ne l'ai jamais oublié. Ça a marqué ma vie. Parce que nous venions de la France qui était en train de se reconstruire. 55, ça va mieux, il y a 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Mais néanmoins, nous n'avions pas encore, mes parents n'avaient pas encore trouvé un appartement vraiment spacieux. J'ai une chambre, je n'avais pas de chambre. Je n'ai pas eu de chambre jusqu'à l'âge de 8 ans parce que tout simplement, il y avait la crise du logement suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, quand j'étais à Princeton, nous avions une maison entourée d'arbres, il y avait une pelouse, des jardins. Enfin, pour moi, c'était le paradis. Et brusquement, le paradis, eh bien, c'était ça. L'école, le racisme, la ségrégation, petite fille. Et je dois dire que mes parents ont été extraordinaires parce qu'ils m'ont vraiment essayé de m'expliquer. Et puis, ils m'ont dit, cette phrase que je n'ai jamais oubliée, ils m'ont dit aussi... N'oublie pas que nous ne sommes pas chez nous, nous ne sommes pas en France, donc tu ne peux pas critiquer, tu dois ne rien dire, tu continues, si tu veux être toujours amie avec la petite fille, tu restes amie avec Carole, mais n'oublie pas que tu ne peux pas non plus, parce que moi j'étais prête à dire, mais vous êtes fous, vous êtes... Pourquoi vous vous comportez ? Et alors donc plusieurs fois par contre, plusieurs fois on l'a accusé de vol, qui était faux bien évidemment, et donc à chaque fois j'ai pris sa défense, et j'ai dit, ouvrons tous les sacs des petites filles pour trouver la trousse de couture qui avait disparu, etc. Et bien sûr, c'était un coup monté des petites filles blanches, mais ça a été démontré. Mais ce qui était déchirant aussi pour moi, c'est que quand je rentrais en France, le dernier jour où j'étais à l'école, elle s'effondrait en larmes dans la classe.
Cette relation avec Carole a beaucoup marqué notre nouvelle héroïne pendant toute sa vie. Et quand elle n'était pas sur les bancs de l'école de Princeton, Claudine adorait traîner sur les bancs de l'école française. Elle adorait lire, apprendre, découvrir le monde. Et puis, quand elle rentrait à la maison, elle entretenait une grande complicité avec son papa Jean-Pierre.
J'aime l'école, j'aime apprendre, d'autant que mon père, quand je suis née, mon père avait 23 ans. Mon père est plus jeune, légèrement plus jeune que ma mère. Il voulait s'amuser avec moi, il voulait me faire découvrir le monde. Alors, vraiment le monde qu'il m'a fait découvrir, c'est d'abord la littérature. Lui, le grand scientifique, ça a été la littérature. Les chansons françaises. Il m'apprenait toutes les chansons françaises. Il faut dire qu'il fallait mieux me les apprendre parce qu'à l'époque... Les avions, on prenait les avions pour aller de Paris à New York, puisque Princeton est à 60 km au sud de New York. Mais c'était des constellations, il n'y avait pas de pressurisation. Donc j'étais souvent petite fille, pas bien, hein, dans l'avion. Et donc il me chantait, il me faisait chanter pendant, et ça durait 10-12 heures à l'époque, parce qu'il y avait des escales. Et donc pendant 10-12 heures, il me faisait chanter des chansons, il me racontait des histoires drôles.
Malbrook s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine. Malbrook s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Il reviendra à Pâques, Mironton, Mironton, Mirontaine. Il reviendra à Pâques, ou à la Trinité, ou à la Trinité.
Après, les chansons, ça a été les poèmes. Parce que, à l'école en France, il y avait des cours de récitation, enfin il y avait des concours de récitation. Alors, j'ai été première en concours de récitation à chaque fois qu'il y en avait, parce que c'était une répétition générale avec mon père dans son bureau mathématique, et il me disait, mais tiens-toi bien, vas-y. J'ai récité des textes. Alors, c'était parfois des textes, je ne suis pas sûre que je comprenais tout. Par exemple, il aimait beaucoup Saint-Simon et Louis XIV, le grand siècle. Il aime beaucoup le grand siècle. Alors, il me faisait apprendre des textes racontant Louis XIV arrivant, la cour, etc. Et alors, c'était littéralement comme une scène de théâtre. Et c'était magnifique.
Nouvelles héroïnes.
Voilà, le premier épisode du début de la grande histoire de Claudine Monteil touche à sa fin. Dans le prochain épisode, Claudine entre au lycée et un voyage en URSS va bouleverser sa destinée ou plutôt va l'aider à trouver son chemin.
Nouvelles héroïnes.
Voilà, c'est à présent l'heure du générique. Je remercie infiniment Claudine Monteil pour sa générosité lors de notre échange et son accueil dans les bureaux de l'UNESCO. Et bien sûr, la talentueuse Alice Krief du studio Les Belles Fréquences pour le montage, le mixage et la réalisation sonore de cette mini-série. Pour soutenir le podcast, parle-en autour de toi et à ton école. Toute cette semaine, et cerise sur le micro, demande à tes parents, grands frères et grandes sœurs de mettre 5 étoiles et un avis sur les plateformes Apple Podcasts et Spotify. Ça me fera très très plaisir. Et comme ça, je pourrai te dédicacer une prochaine histoire. Je compte sur toi.
Nouvelles héroïnes.